C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes vendredi, chers amis, 5 mai. Bonne journée. Bienvenue au 98.5. D'abord, les nouvelles sont excellentes. La météo se résume simplement. Le soleil qui avait fugué est de retour et il sera avec nous minimalement pour une semaine. Donc aujourd'hui, vendredi, c'est du soleil, quelques nuages et un maximum de 15 degrés. Demain, samedi et pour dimanche aussi, même scénario, c'est-à-dire du temps ensoleillé et 20 degrés. Et puis pour le début de la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, ben on prévoit encore là du soleil, des températures qui se promènent entre 15 et 20 degrés. Alors vraiment, ça va faire du bien. Je pense qu'on a tous besoin un peu de lumière et un peu plus de chaleur. Ce qui m'amène à vous parler des inondations. C'est toujours un peu les phases habituelles. Donc, après le déluge et le déploiement des équipes d'urgence, c'est le moment de procéder au constat, au grand ménage et aussi amorcer une réflexion. Pour beaucoup de propriétaires, je comprends que le gouvernement dit qu'il va aider, compenser, mais c'est à peu près impossible de vraiment là, tout récupérer. Les dommages sont considérables. Et la réflexion que plusieurs doivent faire, compte tenu de ce qu'on peut observer depuis quelques années, est-ce que ça vaut la peine de rester? Est-ce que je dois penser à déménager? Est-ce que ce que je viens de vivre, puis peut-être ce que j'ai vécu il y a 2 ans, mais avec plus d'intensité cette année, ça va se reproduire l'an prochain ou dans 2 ans. Les changements climatiques et les phénomènes météo extrêmes, c'est pas là une vue de l'esprit. Et on commence à le voir de plus en plus. Je voyais des gens hier dans les secteurs inondés, je pense à Montréal, dans l'ouest de l'île, puis des gens dans le coin de Charlevoix, qui ont vu cette pluie là tomber de façon, je dirais, comme un marteau. C'est une quantité importante en très peu de temps. Et ça, on le sait qu'on va devoir revivre ça. Et hier, quand on parlait avec M. Bourque d'Uranos, qui disait que quand on parle de changement climatique puis de s'y préparer, évidemment, revoir les infrastructures, la capacité de recevoir, par exemple, autant d'eau, mais c'est aussi penser qu'il y a des gens qui vont devoir quitter. Et je reçois beaucoup de courriels de gens qui disent « Là, ça commence à faire, on peut pas pour les indemniser, puis... Ils ont qu'à quitter. » Ben, c'est pas si simple que ça, partir. Tu peux avoir une hypothèque. Quelle compensation tu vas obtenir? Tu comprends que ta maison vaut plus grand-chose. Tu vas aller vivre où? Alors, oui, il faut y penser, mais c'est pas vrai que c'est un automatisme. Et on ira à Saint-Urbain ce matin parler avec la mairesse, parce que, évidemment, il y a des enjeux importants d'infrastructure, puis aussi, pour la région de Charlevoix, ben déjà, c'est la grande opération nettoyage, puis on espère que les gens vont quand même pouvoir s'y rendre durant la période estivale. Alors là, pour le point concernant les inondations, il y a encore certains endroits où ça pose problème, mais grosso modo, là, ça se stabilise. Maintenant, je vais vous parler de cette étude que la presse publie ce matin concernant le harcèlement et les inconduites sexuelles en milieu de travail. J'avoue que le chiffre m'apparaît énorme, compte tenu que c'est une enquête de Statistique Canada qui a observé le comportement des dernières années. Donc, ce que dit la presse ce matin, 49% des gens disent avoir observé ou subi un comportement sexuel inapproprié ou discriminatoire en milieu de travail dans la dernière année. Et c'est beaucoup, là. Et ce sont donc des chercheuses qui ont pris les données de Statistique Canada et qui les ont extrapolées avec la réalité québécoise. Le ministre du Travail, Boulay, dit « Prends-tu évidemment au sérieux? » Il y a des recommandations, comme par exemple créer un tribunal spécialisé administratif pour gérer les causes de plaintes de harcèlement sexuel. Vous avez vu d'ailleurs les 3 partis d'opposition cette semaine en éducation proposer qui est une mécanique beaucoup plus simple dans les écoles pour dénoncer les gestes de harcèlement puis d'inconduite sexuelle. Et selon l'étude, donc, ce que je vous dis, le 49% m'apparaît énorme. Les femmes étant 2 fois plus nombreuses que les hommes à avoir subi ces comportements, qui sont, disons, assez fréquents. C'est quand 1 personne sur 2, là, ça commence à être problématique. Il y a 82 recommandations. Puis là, on donne l'exemple du milieu de la construction, où il y a peu de femmes, mais que dans ce secteur, beaucoup de celles qui travaillent sont confrontées à des remarques, à du harcèlement, à de la vulgarité, comme étant toujours, évidemment, sous le sens de l'humour. Et en plus, quand vous regardez les observations qui sont notées, c'est que beaucoup vont porter plainte une fois après avoir quitté l'entreprise en question. Je sais pas comment ça se passe dans votre milieu de travail, mais j'avais l'impression que depuis le MeToo, que depuis quelques années, les choses s'étaient quand même un peu plus, je dirais, normalisées, que les rapports étaient différents. Je dis pas qu'il n'y a pas d'abus, là, qu'il n'y a pas d'harcèlement, mais un sur deux là, qui dit avoir subi ou observé du comportement inapproprié, c'est beaucoup. La réforme Drainville en éducation. Alors, Bernard Drainville, qui sera avec nous tantôt, a donc déposé son projet de loi. Quelques mesures phares, c'est-à-dire, je pense, ce qui est très, très clair, c'est que le ministre se donne plus de pouvoir. Jamais un ministre de l'Éducation n'aura eu autant de pouvoir. Ça, c'est le premier constat. Et c'est toujours inquiétant. Quand j'entendais Bernard dire « je me donne des pouvoirs, mais j'ai pas l'intention de les utiliser trop », moi, ça me rassure pas, parce que les pouvoirs sont là et les ministres changent. Alors, le pouvoir de renverser une décision, le pouvoir de congédier, le pouvoir de nommer. Donc, les responsables des centres de services scolaires sont sous la responsabilité du ministre et le ministre se donne le pouvoir de les gérer. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la création de cet Institut national d'excellence en éducation. Depuis hier, j'entends des commentaires de part et d'autre. Je pense pas qu'on puisse s'opposer à ça. C'est important qu'on puisse observer, développer, mesurer des façons de faire en éducation, des programmes, des techniques d'enseignement, puis voir ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait ici, ce qui se fait bien, et comment peut-être ça peut s'appliquer. Je crois pas en éducation comme dans bien des choses, à des systèmes mur à mur. Je pense que le milieu local est important et qu'il faut permettre à chaque école de pouvoir s'approprier cette science-là puis de l'appliquer, donc les profs, en fonction de leur environnement. Alors, on peut pas être contre ça de facto. Je sais que beaucoup de syndicats s'opposent à ça, comme les syndicats s'opposent à la création d'un ordre professionnel. Et pourquoi les profs seraient pas régis par un ordre professionnel? J'ai la réponse, mais je pars dans la peau d'un citoyen. Tu dis, est-ce qu'on pourrait, par exemple, sortir des débats de convention collective, puis comme citoyen, donc, pouvoir, le cas échéant, soulever une plainte à l'ordre professionnel des enseignants? Mais en même temps, je pense qu'il faut reconnaître l'autonomie des profs. Là, il y a tout l'enjeu de la formation, où le ministre va mettre un peu son nez là-dedans. Tous ces petits éléments-là peuvent devenir rapidement des irritants. Est-ce que ça va changer? Est-ce que c'est une autre réforme parmi les réformes qu'on a vues dans les dernières années? On ne le sait pas. Mais il y a des choses à faire et ça presse en éducation. Et tu sais, à une époque, on avait des commissions scolaires. On disait que ça représentait personne. Maintenant, on a des gestionnaires, pour la plupart inconnus, qui commencent à peine à sortir. Là, c'est assez nouveau. Ils ont tendance à se réfugier derrière leur bureau. Alors, donc, il va aller chercher aussi des données, un peu comme Christian Dubé en santé, pour tenter de faire avancer le ministère de l'Éducation. Mais, je vous le disais, les réponses, Pascal Bérubé dit que c'est le Gaétan Barret de l'Éducation, donc centralisé au maximum, et les syndicats qui sont aussi inquiets. Très bien, on va parler justement du réseau de la santé, deux, trois éléments ce matin. D'abord, le Journal de Montréal nous confirme ce qu'on sait tous, là, c'est-à-dire qu'il y a un roulement dans le personnel du réseau de la santé, dans les hôpitaux, là, qui est hallucinant. On donne des exemples où des établissements ont perdu 20% de leur personnel en une année. Quand on vous disait ce matin qu'il y a des médecins qui quittent l'urgence, qui veulent pas pratiquer parce que c'est une charge de travail trop lourde, trop à risque, préfèrent retourner vers les cabinets des infirmières qui disent « fini, m'en va ailleurs », notamment dans les services où il y a du personnel 24, 7 sur 7. Là. Et donc, les taux de roulement, quand vous regardez, par exemple, à Sainte-Justine, c'est 20%. Pour ce qui est des infirmières, le CHUM, c'est autour de 15%. Maisonneuve-Rosemont aussi. Dans le cas des préposés aux bénéficiaires, encore là, à Sainte-Justine, 29% de roulement, donc de déplacement. Alors, vous avez la liste comme ça. Puis je regarde ce qui se passe à Maisonneuve-Rosemont. Maisonneuve-Rosemont, c'est un hôpital mal aimé de l'Est de Montréal. Là, on a annoncé, évidemment, des investissements. On va moderniser tout ça, tant mieux. Hier, les employés ont reçu une directive concernant ce qu'on appelle les sit-in. On a vu ça à Maisonneuve-Rosemont, mais ailleurs, dans le réseau de la santé. Ou, par exemple, au début d'un quart de travail, alors qu'il manque du personnel, on impose le fameux temps supplémentaire. Puis là, les infirmières préposées protestent en disant on fait un sit-in parce qu'on est écœuré de se faire traiter comme ça. Là, la direction a envoyé une note au personnel. Et je dirais, c'est signé par l'équipe du service des relations de travail. Si tu veux foutre le bordel dans un milieu où il y a un roulement de personnel, où le monde est à bout, où le monde a tout donné depuis la pandémie, puis les filles et les gars qui restent sont dévoués, tu vas réussir avec des mémos comme ça. Alors, on commence par expliquer que c'est un moyen de pression illégal, que ça entre en vigueur aujourd'hui, le vendredi 5 mai, que rien ne sera toléré. Nous allons interpeller le tribunal administratif du travail qui a le pouvoir d'intervenir. Conciliation, ordonner le retour au travail, sous peine d'outrage au tribunal. Aucune heure de sit-in ne sera payée. Le code grève sera indiqué à l'horaire. De plus, nous allons évaluer au cas par cas la possibilité d'instaurer d'autres mesures disciplinaires, légales, déontologiques à toute personne participant à un sit-in. Écoute là, t'as l'impression que c'est un commandement militaire. Et ce sont des infirmières qui m'ont fait parvenir ça en disant, puis je veux pas les identifier, on sait comment ça fonctionne, que le ton utilisé n'a pas de bon sens. Paraît-il que la personne responsable s'est fait savonner les oreilles, je sais pas si c'est vrai. Mais, tu sais, comment en rajouter pour pourrir un climat de travail? Puis après ça, on va s'étonner qu'il y a des gens qui décident de quitter. Vraiment, là, c'est bizarre. L'autre chose qui est bizarre ce matin, ça fait 48 heures que ça roule, là. L'histoire, je dis bien possible, d'une fillette de 2 ans qui a été excisée. Je dis bien possible, parce que on n'a pas toutes les informations. C'est la Tribune qui a sorti l'histoire. Ça se passe dans un centre de la petite enfance à Québec. Et c'est une éducatrice qui fait un changement de couche, puis qui a l'impression, qui observe, disons, un changement à l'anatomie de l'enfant. Contacte la DPJ, on parle à cette directrice, puis après ça, contacte la DPJ. Puis la DPJ a dit que c'était délicat, supposément, que c'est une question culturelle. Donc, on n'avait pas l'intention d'ouvrir d'enquête. Il y a 3 ou 4 questions bien importantes, là. Parce que je sais que la Commission des droits de la personne puis de la jeunesse a annoncé qu'il y aura une enquête. Mais là, on a un enfant de 2 ans qui présente une anomalie, dit l'éducatrice. Qu'est-ce qui s'est fait? Est-ce que cet enfant-là a été vu par un médecin? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que c'est vrai qu'on a répondu, on touche pas à ça parce que c'est une question culturelle? L'excision? On peut pas pratiquer au Québec ce genre de mutilation. Et c'est un enfant, si c'est confirmé, si c'est vrai, qui doit faire l'objet d'un suivi, il doit y avoir quelque chose qui se passe. C'est comme si la DPJ, là, la version qu'on a dit, ben je raccroche, merci, c'est terminé. On touche pas à ça, nous autres. Qu'il est arrivé quoi après? Alors, pour l'instant, il y aura donc enquête officielle. Là, on a une directrice nationale de la protection de la jeunesse. Puis, comme vous pouvez deviner, c'est toujours assez compliqué de parler à ces gens-là. Et l'idée, c'est pas de savoir, je comprends qu'il y a une enquête, tout le détail du cas de cette petite fille de 2 ans de la région de Québec. Je veux juste savoir comment sont traités ces cas. C'est quoi la procédure normale? Puis qu'est-ce qui a peut-être pas été fait dans ce dossier-là? Donc, à suivre. Avec Jean-François Lépine, ce matin, on va revenir sur l'Ukraine, bien sûr. Il y a eu des événements dans les dernières heures, notamment le groupe Wagner qui menace de retirer ses troupes de Bakhmout en disant « nous n'avons plus de munitions et d'ici quelques jours, on va quitter tout simplement ». En critiquant le commandement militaire russe. Également, vous avez Moscou qui promet une réplique aux attaques présumées de drones contre le Kremlin, ce qu'ils ont appelé la tentative de meurtre contre le président Poutine. On a même accusé les Américains d'être complices dans ça. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que deux drones auraient été neutralisés donc dans le périmètre du Kremlin. Et on sait que Moscou dit ben ce sont les Ukrainiens et l'Ukraine évidemment dit que non. Alors est-ce que on a identifié les auteurs de cette manœuvre? Est-ce que c'est un est-ce que c'est du cinéma? Est-ce qu'on en fait il est arrivé quelque chose mais quoi exactement on ne le sait pas. Et donc ça aussi c'est un quand même à suivre là, quelle sera la réponse, la réplique des Russes dans ça. Le dossier de la Chine, aussi, on va en parler avec Jean-François, mais disons que ça se gâte pas mal pour M. Trudeau. Je vous rappelle qu'on a convoqué l'ambassadeur de Pékin à Ottawa. On commence à regarder le traitement de certains diplomates qu'on pourrait expulser. Et vous avez également le député Michael Chong qui contredit ce que M. Trudeau a avancé. Alors, ce qu'on... c'est d'après les rapports du service de renseignement et de sécurité, c'est que ce député a été ciblé, sa famille a été ciblée, et que il semble que M. Trudeau, ou en tout cas tout près de M. Trudeau, là, ses conseillers, aient été informés en 2021 que sa famille, donc à M. Chong, était ciblée par la Chine. C'est pas ça que M. Trudeau a dit. L'information s'est pas rendue à lui. Donc, il y a encore une zone un peu floue. Mais tout ça montre, évidemment, à quel point la Chine, sous toutes sortes de fronts, sur toutes sortes de fronts, a déployé des façons de s'ingérer dans la politique canadienne, dans le monde des affaires. Et il faut pas, je dirais, stigmatiser la communauté chinoise, mais il est clair que le Canada est une cible de choix pour la Chine. Donc, on va vous en reparler. Évidemment plus tard ce matin. Et je vais terminer avec cette nouvelle, en fait deux nouvelles. En Serbie, on parlait plus tôt cette semaine d'un jeune de 13 ans qui est entré dans une école et qui a ouvert le feu avec l'arme de son père. Il avait tué 8 de ses camarades, le gardien d'une école, blessé professeur et élève. Et là, autre cas dans les dernières heures, toujours en Serbie, une histoire qui a fait 8 morts, une dizaine de blessés. C'est un tireur qui s'est promené. Ça a commencé par une chicane de famille. Et il s'est déplacé. Et finalement, il a été arrêté par les policiers. Et donc, deux événements cette semaine. Tuerie de masse en Serbie. Et l'autre chose, ça se passe dans le métro de New York. Et c'est vraiment la méga controverse. C'est un jeune homme de 30 ans, Jordan Neely, qui est une espèce d'itinérant, qui est un sosie de Michael Jackson, qui fait des mouvements de danse dans le métro. Et qui quête en même temps. Alors, le 3 mai, il est dans le métro, et d'après les témoins, il gueule, prenant un enjeu de santé mentale, et il y a quelqu'un qui en a assez, et qui décide de le prendre et de lui faire une prise de coups, qui dure de longues minutes, et il est décédé. Et l'enquête du pathologiste, le rapport du pathologiste, considère que c'est un meurtre et qu'il y a eu d'autres gens autour. Et il n'y a toujours pas d'arrestation, il n'y a toujours pas d'accusation. L'homme en question a été rencontré. Les témoins disent que la victime disait, entre autres, qu'elle voulait mourir. Donc, on n'a pas tous les détails, mais comment se fait-il que ce gars-là ait été étouffé pendant de longues minutes? Et les policiers ne font plus ça, en tout cas, ils ne sont pas supposés faire ça. Ce genre de prise de coups, surtout cette pression exercée pendant de longues minutes. On verra pour la suite.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
On reçoit ce matin le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, qui a déposé hier son projet de réforme qui lui donne des pouvoirs, qui crée également un institut national pour améliorer l'enseignement dans les écoles. Bernard, bonjour.
Bonjour, Paul.
Je vais me placer dans ce qu'on appelle le fauteuil du parent qui écoute ce matin, là.
Ouais.
Dans toutes les mesures annoncées hier, qu'est-ce qui change vraiment quelque chose dans la classe, dans l'enseignement que mes enfants reçoivent?
Moi, je dirais l'accès aux données. C'est ce qui va nous permettre de donner des résultats ou de produire des résultats le plus rapidement. Parce que actuellement, il y a des bonnes données. Le problème, c'est qu'on n'y a pas accès. Et avec le projet de loi, on crée l'obligation pour les centres de services de déposer les données qu'ils ont dans des bases de données auxquelles on va avoir accès.
Mais ça, c'est dur à comprendre. Comment ça se fait que le ministère de l'Éducation n'a pas accès à des données des centres de services scolaires?
Parce que les données appartiennent aux centres de services scolaires.
Oui, mais le centre des services scolaires, ça, c'est créé par Québec, ça?
Oui, mais c'est les entités légales, c'est les centres de services scolaires. Alors là, on crée un cadre juridique pour leur dire, bon ben dorénavant, les données, là, par exemple, les bulletins, là, les résultats des premiers bulletins avant Noël, on va vouloir que vous les déposiez dans cette base de données là, pour qu'on puisse suivre rapidement, voir rapidement là où on a des problèmes. Tu sais, si on se rend compte, Paul, que dans certaines écoles, dans certains centres de services, là, les résultats, je donnais cet exemple-là hier, les résultats en français sont plus bas que la moyenne québécoise, ben là, après ça, tu peux agir. Tu dis, OK, on a un problème. Là. Dans telle école, là, visiblement, là, les résultats sont pas au rendez-vous. Est-ce qu'on peut vous donner de l'aide? On a des sous, mettons. Avez-vous des éducatrices qui pourraient rentrer dans la classe puis aller aider l'enseignante? On va vous y payer. Là. On va vous transférer de l'argent. Évidemment, c'est pas moi. Là. C'est le centre de service qui va me dire, regarde, on a des ressources, on a des conseillères pédagogiques, ouais. On a des orthophonistes, on a des orthopédagogues qu'on pourrait déplacer, par exemple, d'une école pour l'envoyer là où on en a le plus besoin.
Mais tu comprends que c'est dur à se mettre dans la tête que Québec ne sait pas ce qui se passe dans les centres de services scolaires parce qu'un centre de service peut refuser de donner l'information.
Ouais, la plupart le donnent. Le problème, c'est que le système est inefficace. Paul, c'est pas une image, là, c'est la réalité. Là. Assez souvent, quand je dis, OK, je peux-tu savoir ce qui se passe là? OK, on va faire une collecte d'infos. Là, il envoie 72 courriels dans les 72 centres de services. Puis là, ils disent, là, on aimerait ça avoir telle donnée. OK. Fait que là, ils se tournent vers les écoles, ils vont chercher les données. Là, ils collectent les données.
Ben, ils vont faire la même chose même avec les...
Ouais, mais là, on va avoir un système beaucoup plus efficace, là. Là, on va avoir des bases informatisées qui vont faire en sorte que, au lieu d'être obligé de passer par 3-4 étapes, l'information va être versée directement dans ces banques de données ou ces bases de données, puis on va être capable, avec ça, de savoir pas mal plus ce qui se passe et puis de prendre certaines décisions en conséquence.
OK.
Fait que ça, je pense que ça peut aider dans les classes.
OK.
Bon.
L'institut
ouais.
qui va être créé avec cette réforme-là, est-ce que c'est un institut indépendant?
Ben aussi indépendant que ça peut l'être.
C'est-à-dire?
Ben c'est nous qui nommons le conseil d'administration.
Non, mais quand je te donne un exemple.
Mais une fois qu'ils vont être nommés, ils vont être autonomes.
OK. Autonome et indépendant, c'est deux choses.
Ben.
Non, mais ce que je veux dire, là. Exemple, là.
Oui, vas-y.
L'Institut arrive à la conclusion.
Oui.
Que le français devrait être enseigné au primaire de telle façon. Est-ce que le ministre peut renverser la décision et dire on ne suit pas cette recommandation?
Oui, il pourra. Mais, je veux dire, l'Institut, là, l'idée, là, c'est d'aller chercher les meilleures connaissances. Ce qui a été essayé dans les écoles. Ce qu'on appelle les données probantes, là, j'haïs ce thème-là, là, je te le dis tout de suite, là, mais données probantes, ça veut dire quoi? On a de l'information, on a de la recherche. Après ça, on est allé la tester. On est allé dans les salles de classe pour voir si ça fonctionnait. Et quand ça fonctionne, c'est probant. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour avancer puis pour améliorer, mettons, une méthode d'enseignement. Bon, ben, l'Institut va recueillir les meilleures connaissances, les meilleures recherches qui ont été validées dans les classes.
J'ai pas de problème avec ça. Moi, c'est ma question, c'est sur le pouvoir du ministre de dire, vous venez de recueillir ça, votre avis, c'est le suivant, mais je m'en fous. J'ai le pouvoir de le faire.
Ouais, ben là, il va falloir qu'il s'explique, le ministre. Là. Il va falloir qu'il dise pourquoi lui ou elle est meilleur que l'Institut pour décider de la manière avec laquelle le français devrait être enseigné, par exemple.
Parce qu'il peut y avoir des pressions.
Ben,
parce qu'il peut y avoir des lobbies. Parce qu'il peut y avoir tout
mais
ça.
Paul, et c'est une chose que j'ai réalisée en arrivant au ministère, quand tu jases avec les experts et tout ça, tu te promènes dans les écoles, tu te rends compte qu'il y a des chapelles là, en éducation. Là. Il y a des courants. Là.
C'est sûr.
Puis, alors moi, ce que je souhaite avec cet institut-là, c'est qu'il soit au-dessus des chapelles, puis qu'il nous arrive avec ce qui marche, pas ce qui fait plaisir à tel ou tel courant ou à tel ou tel lobby. Quelles sont les meilleures méthodes?
Okay.
Quelles sont, et alors, donc, et après, on s'en inspire pour la formation continue.
Bon, justement, là, la formation continue, je veux juste comprendre. Là. D'abord, est-ce qu'elle existe actuellement?
Il y en a. Mais c'est très aléatoire.
Donc, tu veux imposer une formation continue aux profs?
La loi dit déjà, Paul, c'est 30 heures aux 2 ans. Sauf que la loi, elle a été contestée par les syndicats. Et les tribunaux ont dit, vous n'avez pas raison de contester. Alors donc, la loi a été validée par les juges. Et là, on dit, bon ben, le 30 heures aux 2 ans, on veut aller de l'avant, oui, avec des formations continues qui sont basées sur la science,
mais
qui sont basées sur les meilleures méthodes.
Mais ce que je veux dire, c'est pas en train de se négocier à la table, ça, avec dans le cadre de la négociation collective?
Ouais, j'ai vu la sortie des syndicats là, là-dessus. Là, puis, écoute, Paul, il y a des discussions là-dessus. En tout cas, c'est ce que les syndicats disent. Mais la loi doit s'appliquer. Puis, Paul, au-delà de la loi, la formation continue. C'est bon pour les médecins, c'est bon pour les infirmières, c'est bon pour les avocats, c'est bon pour les psychologues.
Moi, je suis pas contre la formation continue. Je veux savoir si le ministre peut se mêler de la formation continue.
Ben oui, parce que la loi lui donne le droit de le faire. Et moi, ce que je
dis... Mais en quoi ça concerne le ministre, la formation continue?
Ben, on veut, Paul, que le meilleur enseignement possible soit donné à nos enfants. Et la formation continue va nous permettre d'outiller encore mieux et encore plus nos enseignantes puis nos enseignants. Comment est-ce que... Moi, je suis convaincu, Paul, là. Tu sais, je le dis aux enseignantes qui nous écoutent, là. Moi, mon objectif, là, c'est pas de dire, voici la formation que tu vas prendre. Il y aura un bouquet de formations qui leur seront offertes, qui leur seront offertes. Et tout ce que je dis, c'est, il va falloir les faire les 30 heures sur 2 ans.
C'est parce
mais je me donne, par contre, soyons francs, là. Je me donne le pouvoir, oui, dans le projet de loi, de dire, sur les 30 heures, il pourrait y en avoir 5, mettons, sur un thème que je prioriserais. Par exemple, l'enseignement du français. Actuellement, les résultats en français, Paul, c'est pas assez bon. C'est pas à la hauteur, là. Tu sais, je regarde les résultats aux examens, aux épreuves ministérielles, aux examens du ministère, là. Ça va pas bien, là. Faut donner un coup de barre au niveau du français. Alors, ça se peut que je dise, sur les 30 heures, il y en a 5, là. Il faudrait que ce soit sur l'enseignement du français. Puis là, elles choisiront à l'intérieur de cette catégorie-là un certain nombre de formation continue qui feront leur affaire.
En résumé, c'est qu'on dit, voici avec cette réforme un ministre de l'Éducation qui se donne à peu près le plus de pouvoir qu'on n'a jamais vu. Il peut nommer les gestionnaires, il peut les congédier, il peut renverser leurs décisions, il peut dire à un prof, voici ce qu'il va y avoir dans votre formation continue. Bref, je peux renverser une décision ou une recommandation de l'Institut.
Ben,
tu deviens le ministre le plus puissant de l'histoire en éducation.
Oui, mais Paul, tu sais, prenons la gestion, là. Bon, j'ai 72 directeurs généraux, directrices générales dans les centres de services. Je pense que c'est normal. D'abord, c'est eux autres qui savent là, ce qui se passe sur leur territoire, OK? Ils savent ce qui se passe là, dans leurs écoles. Pas moi, là, dans le 16e étage à l'édifice G à Québec, là, qui sait ce qui se passe, là, au niveau des écoles puis au niveau des réalités régionales. Alors, je dois travailler de concert avec ces 72 DG. Ils deviennent mes dirigeants, ils deviennent mes leaders dans le réseau. Bon. Moi, j'ai des orientations. J'en ai énoncé 7 en janvier. Bon, le français, les aides à la classe, la voie rapide pour le brevet, la formation professionnelle, etc., etc. Il est normal, Paul, que les 72 dirigeants principaux travaillent avec moi sur ces priorités. Et moi, je l'ai dit, je tiens à les garder. Parce que, de façon générale, là, ceux avec qui j'ai fait affaire à date, là, puis quand je visite les écoles, ils sont avec moi, ils sont bons, mes DG. Elles sont bonnes, mes DG. Fait que mon objectif, c'est pas de commencer à faire un brassage de cartes. Mon objectif, c'est de faire une équipe avec eux autres. Et à chaque année, on va s'asseoir et on va se donner des objectifs communs. Il va y avoir une entente d'imputabilité. ils vont devoir rendre des comptes sur les résultats de leur gestion. Et si ça marche pas, Paul, si ça marche pas, c'est normal qu'à un moment donné, tu dises à un DG, écoute, on s'entend vraiment pas. Ça fonctionne pas. T'es pas d'accord avec ça. T'es pas d'accord avec ci. T'es pas d'accord avec ça. Sais-tu quoi? Je pense qu'on est mieux d'arrêter, là. Mais l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est d'avoir des objectifs communs, un plan de match commun, puis on travaille tout le monde ensemble, puis on revise à chaque année où est-ce qu'on en est.
Je comprends tout ça, là. Mais je reviens au pouvoir du ministre. Et moi, ma préoccupation, là, puis je pense à la préoccupation de beaucoup de parents aussi, là, dans tout ce que tu viens de nous dire, là, ça règle pas le problème des classes qui débordent. Ça ne règle pas le manque de personnel, le manque de personnel spécialisé. Tu comprends?
Mais Paul...
C'est pour la rentrée scolaire à l'automne, là.
Oui, mais Paul...
Non, mais regarde, je veux juste finir. La réalité des parents, là, c'est un service d'autobus scolaire aléatoire.
Je sais.
C'est un service de garde qui va coûter plus cher avec une offre moindre. Et c'est des classes avec des profs qui sont épuisés puis qui ont pas les ressources.
Mais Paul,
ça change rien.
Ce que j'ai déposé hier, c'est pas la totalité de ce que j'ai déposé à date comme ministre de l'Éducation. J'ai déposé un plan de match. Et j'ai dit que je souhaitais des aides à la classe dans le plus grand nombre d'écoles primaires du Québec possible.
Ben oui, bien
ça, c'est des éducatrices qui ont des heures à donner. Ils sont là le matin, après ça, ils ont plus d'heures, ils reviennent le midi, après ça, ils ont plus d'heures, puis ils reviennent à la fin de la journée. Entre les, tu sais, là où ils ont des trous, ils sont prêts à aller nous aider dans les classes. Puis il y a un projet pilote qu'on a fait, c'est super positif. Les éducatrices sont non seulement heureuses, sont bonnes, parce que les enseignantes qui les ont dans leur classe disent « Wow, elles m'aident vraiment ». Et là, ça, c'est sur la table à négo. Et j'espère que les syndicats vont finir par donner leur accord, puis qu'on va pouvoir mettre les éducatrices dans les salles de classe comme aide à la classe. Ça, c'est du concret. Tu dis, il manque de profs. Ben, c'est pour ça que j'ai souhaité la création d'un 30 crédits pour les personnes qui ont un bac. Alors, ils sont déjà dans les classes. Ils ont un bac en français, en mathématiques, en histoire, en géo, mais ils n'ont pas le brevet d'enseignant. Alors là, c'est pas moi qui l'ai créé, mais la TELUC a annoncé qu'elle l'a créé. Et là, on est rendu à pas loin de 500 inscriptions. C'est des non légalement qualifiés qui, avec un 30 crédits, vont devenir enseignantes. Officiellement. Et moi, mon espoir, c'est que des gens qui m'écoutent présentement, qui ont le goût peut-être de changer de vie professionnelle, puis qui ont un bac, puis qui se disent peut-être que l'enseignement, ça pourrait être pour moi, je leur dis, rapportez-vous, essayez ça, l'enseignement, allez à votre centre de service, offrez-vous, on a besoin de monde, puis vous allez pouvoir vous inscrire aux 30 crédits, puis vous allez pouvoir devenir enseignante.
On a parlé récemment, dans les derniers jours, du climat en classe avec des exemples.
Oui.
Des cas isolés, de profs qui pètent une coche, qui capotent et qui ont eu des abus de vocabulaire, disons. On a parlé aussi de profs qui ont eu des cas d'inconduite sexuelle. T'as créé une enquête, t'as demandé aux gens d'aller voir. Les trois partis d'opposition proposent un projet de loi pour justement tout ce qui concerne le harcèlement, l'intimidation, les inconduites sexuelles, qui est un mécanisme qui aide à dénoncer puis à intervenir. Es-tu prêt à appuyer le projet de loi?
Ce que j'ai répondu à ça, c'est que à partir de septembre, on va avoir le protecteur national de l'élève et des protecteurs régionaux. Et ils ont les pouvoirs de recevoir ces plaintes. Ils vont pouvoir les traiter en priorité. Ils vont même pouvoir les enquêter. Et ce que j'ai dit, c'est, je suis pas fermé à l'idée. Mais on peut-tu d'abord, Paul, donner une chance au protecteur national de l'élève et à ses représentants et représentantes dans les régions pour voir si ça fonctionne? Tu serais le premier à dire, Paul Arcand, on peut-tu, plutôt que de rajouter une couche, là, on peut-tu laisser la mesure travailler? Puis s'il faut en rajouter, on en rajoutera.
Mais
t'es le premier à dire qu'à un moment donné, il y a trop de bureaucratie, sacrifice. Laisse-moi travailler avec le protecteur national de l'élève. Il a même pas commencé.
Non, mais c'est parce que des fois, ça prend des pouvoirs pour faire des choses, puis faire en sorte...
Mais il y en a des pouvoirs, le protecteur national.
Tu sais, la bureaucratie, là, quand c'est un répondeur téléphonique pour recevoir une plainte d'agression sexuelle, c'est peut-être pas la meilleure affaire. On va se le dire. Puis deuxièmement, c'est quoi?
Ouais, mais là,
la DPJ, on a créé... Je vais te laisser y aller, mais la DPJ, on a créé un poste de DPJ national. Dis-moi si ça change quelque chose dans la vie.
Regarde, je vais laisser... Je vais m'occuper d'éducation, si tu veux.
Mais non, mais tu me parles de bureaucratie, là. On crée la DPJ nationale, puis ça n'a pas changé grand-chose. Alors, je reviens à l'école.
Laisse-moi... Oui, merci. Alors, sur la ligne, Regarde, l'idée, c'était pas de remplacer les organismes qui travaillent déjà 24/7. L'idée, c'était de donner un moyen de plus. Il y a déjà un courriel où tu peux signaler, tu peux dénoncer. Moi, j'ai dit, regardez...
Mais il y a personne qui va faire ça par courriel.
On va créer une ligne téléphonique où elles vont pouvoir le faire. Bon, alors... C'est un moyen de plus. Ça ne se voulait pas une réponse magique.
Mais c'est pas une question de réponse magique. C'est une patente qui marche pas. Ces heures de bureau où laisser le message.
Il y a plein. Mais il y en a qui appellent quand même, là. Puis on s'est organisé pour qu'elle réponde.
Je dois te dire que
j'étais pas satisfait, moi, là, les premiers jours, là. J'étais pas satisfait, là. Puis quand j'ai dit, là, franchement, on peut-tu, s'il vous plaît?
Fait que ça s'est arrangé. Les vrais changements en classe, là, ça va passer par la convention collective. La négo en cours.
Ouais, mais aussi. Non, mais le 30 crédits dont je t'ai parlé. Non, mais il y a ça aussi. Puis il y a d'autres mesures également, là. Il y a d'autres mesures qui s'en viennent. Le projet de loi, c'est pas la totale, là. Je travaille fort.
J'ai aucun doute. Tu reviendras. Parce que là, il faut que je te laisse aller. Ça a l'air que tu as encore d'autres activités.
Ah oui, c'est vrai. OK, ouais. Salut.
C'était le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. Parlons du dossier des inondations. Évidemment, même si on dit qu'un peu partout, de façon générale, la situation se stabilise, c'est en même temps la grande opération nettoyage qui est en cours. Puis on peut voir aussi des gens qui se disent... Est-ce que je peux encore rester dans mon coin? Des gens qui ont connu des inondations au cours des années. Mais c'est sûr que quand on voit les changements climatiques, ce qu'on appelle les cas de météo extrêmes qui vont se multiplier, ben ça amène cette réflexion. On va en discuter ce matin avec la mairesse de Saint-Urbain, qui a été, vous le savez, cette municipalité touchée, Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain, les inondations, également la route brisée. Claudette Simard est avec nous. Madame Simard, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, comment ça se passe chez vous, là?
Bien, chez nous, disons que déjà ce matin, avec le soleil, ça nous soulage un peu de toute cette peine et cette tristesse qu'on vit particulièrement avec le décès de deux pompiers, entre autres. Chez nous, au niveau le temps du ménage, bien sûr, de commencer, ce n'est pas nous qui avons été, bien sûr, les plus touchés au niveau sinistre résidentiel et commercial. Maintenant, les gens ont reçu de l'aide de par la sécurité civile et la sécurité publique. Ils ont reçu toutes les informations nécessaires. Ils ont eu de l'aide des voisins, des amis, de la famille. Ils ont pu déménager, d'avoir une transition dans avec des amis, chez des amis. Alors, il y a une entraide quand même incroyable qui s'est installée depuis lundi.
Vous parliez évidemment de cette douleur pour les familles, pour la population de chez vous, suite au décès de ces deux pompiers volontaires. Il y a beaucoup de questions qui se posent au sujet de ces deux décès. On s'est tous demandé, puis beaucoup de citoyens ont exprimé ça aussi, pourquoi ils sont partis dans une embarcation alors que la rivière était déchaînée, alors qu'eux ne savaient pas nager. Est-ce que vous avez posé des questions sur le pourquoi de l'intervention à ce moment-là?
Monsieur Arcan, il y a énormément de questions qui sont posées. Maintenant, vous comprendrez que l'enquête est déjà débutée. Il y a trois enquêtes qui vont se faire et pour toutes ces raisons, je ne peux pas commenter le dossier. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et il y a plein de gens, on peut interpréter de toutes les façons possibles, mais je pense aussi qu'il faut attendre les résultats des enquêtes et se questionner, c'est tout à fait légitime et normal, mais je pense qu'il y a des choses qui vont mériter d'être sues en temps et lieu, et je ne peux pas répondre à ce sujet-là.
Avez-vous eu des contacts avec les familles des deux pompiers qui sont décédés?
Tout à fait, M. Arcan, c'est moi et mon directeur général qui sommes allés rencontrer des familles lundi des disparus, parce que c'était une disparition dans la rivière du Gouffre. On n'avait pas d'autres détails là-dessus. Mais oui, j'ai rencontré les deux familles. Ce sont des gens que l'on connaît depuis longtemps. C'est une petite communauté, on se connaît, on connaît les deux pompiers depuis qu'ils sont au monde finalement. Alors c'est très difficile, mais en même temps c'est important de le faire, d'être avec eux. Puis le ressenti pour moi et l'écoute et l'empathie, c'est majeur dans des circonstances comme celle-là. Et c'est important qu'ils le sachent et que la communauté le reconnaisse et soit derrière eux.
On peut imaginer le choc, la peine, la tristesse et tout ça. Est-ce que vous avez senti de la colère? Est-ce que vous avez senti qu'on blâmait les autorités pour la mort de leur fils ou de leur conjoint?
Moi, je dirais que c'est par les médias que nous l'avons appris, parce que lorsqu'on est allé rencontrer ces gens-là, ça n'est pas le sentiment du tout qu'on a eu. Okay. Maintenant, avec le recul, c'est évident qu'il peut y avoir plein de questionnements, puis c'est, je pense, de la part des familles, quelque chose qui peut être normal, mais en même temps, je pense qu'il faut laisser les gens s'exprimer comme ils le pensent, mais je pense qu'à d'un autre côté, à mon avis, on a toujours fait pour le mieux, et je pense que c'était, il n'y a jamais été dans l'idée de personne qu'on puisse vivre des noyades, deux noyades de pompiers à Saint-Urbain le 1er mai dernier. Alors, c'est tout ce que je peux dire là-dessus, c'est tout le monde peut poser des questions, tout le monde peut être fâché, c'est normal de vivre ça comme ça. Pour le reste, j'espère que leur peine soit diminuée, soulagée de par tout l'appui et la solidarité qu'ils vont connaître aussi probablement dans les prochaines semaines en lien avec probablement des funérailles civiques.
On verra aussi ce que les enquêtes vont dire. Comme vous dites, il y en a trois, la police, coroner et tout,
oui.
Ça.
Comment vous... une enquête sérieuse.
Oui. Comment vous voyez les prochains mois pour votre municipalité, pour la région de Charlevoix, les terrés, ça va ressembler à quoi, vous pensez?
Oh, ça va être, à mon avis, très difficile pour la région de Charlevoix, région touristique. Vous savez, le Genévrier, c'est une ville, le Genévrier, le camping depuis des années, et c'est une perte incroyable pour l'économie. Vous avez, mais au niveau résidentiel, Baie-Saint-Paul, avec ses petites rues patrimoniales, les maisons qui sont là depuis des centaines, mais au moins 150 ans, 200 ans, c'est incroyable là, pour eux, de ce qu'ils peuvent vivre, de ce qu'ils peuvent ressentir. Il y a un travail d'une équipe qui est solide, ils sont bien entourés, bien appuyés, mais ce sera un défi important. En tout cas, moi, j'ai de la difficulté à réaliser tout ce qu'ils auront à vivre. Mais les plus impliqués, le plus important là-dedans, ce sont les gens, les propriétaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont pouvoir reconstruire? Est-ce qu'ils vont devoir déménager? Est-ce que leur maison va être démolie? C'est un travail qu'il y aura à faire, à accompagner par, bien sûr, l'aide de la sécurité publique, sécurité civile. Et il y aura les gens auront besoin d'aide aussi psychosociale, ça, j'en suis convaincue.
Merci beaucoup, Mme Simard, d'avoir été avec nous. Bon courage et nos meilleurs mots et d'encouragement à vos concitoyens.
Merci, M. Arcan. Bonne journée à vous.
Bonne journée à vous. Claudette Simard est la mairesse de Saint-Urbain.
L'essentiel de Paul Arcan.
Maintenant, hier, on vous a fait entendre le témoignage de cette mère qui est inquiète, qui a un fils de 18 ans, qui est consommateur de drogue, visiblement, et qui entre dans des périodes de psychose où il peut se désorganiser, peut devenir agressif, menaçant. Et malgré le fait qu'il y a eu une ordonnance de la cour, les policiers sont allés le chercher sur la rue, a été évalué à l'hôpital, il est ressorti. C'est un peu comme ça. Et depuis hier, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Si je résume, des parents qui ont des jeunes adultes, qui ont toutes sortes de problèmes, consommation de drogue, problèmes de santé mentale exacerbés, des psychoses et des épisodes de violence. Et qui sont, je vous le jure, là, les témoignages vous arrachent le cœur, qui sont découragés, qui ne savent plus quoi faire. Et je vais en parler ce matin avec Dr Pierre Blot, qui est psychiatre et qui est directeur national des services en santé mentale et en psychiatrie légale. Dr Blot, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, je vous parle de ces nombreux cas, là, puis c'est pas une surprise pour vous, mais j'ai parlé à d'autres collègues psychiatres, d'associer consommation de drogue et psychose, là, c'est pas un cas isolé, c'est assez fréquent.
Oui, en fait, je vous dirais, moi, ça fait 32 ans, 33 ans bientôt que je suis psychiatre, puis on voyait pas ça. Moi, j'ai pas vu ça dans ma pratique dans les 10 premières années. J'ai fait de l'urgence pendant 32 ans en psychiatrie, puis on voyait les gens déprimés, les gens anxieux. On voyait le train courant, je vous dirais. Mais effectivement, depuis, je vous dirais, une quinzaine d'années, les psychoses toxiques sont très fréquentes dans les urgences. On voit beaucoup de patients qui, à cause de la consommation de drogue, de toutes sortes de trucs, en fait, se présentent avec des états où le jugement est fortement perturbé. Là.
Et comment on fait avec ces patients-là? Comment on les traite? Comment on les soigne?
Ben d'abord, une personne qui présente un danger pour elle-même ou pour autrui en vertu du code civil, puis qui est qui est aux prises avec un problème de santé mentale, visiblement quelqu'un de psychotique l'est, là, qui soit, que ça soit toxique ou non, ben on doit évaluer la dangerosité, puis on doit garder, on peut garder le patient contre son gré, en fait, parce que c'est une obligation. Ça fait partie de nos responsabilités comme psychiatre d'évaluer la dangerosité de l'individu. Pour autant, même si on garde le patient contre son gré, ça nous donne pas nécessairement le droit de le traiter de force ou contre son gré, en fait. Sauf s'il y avait une situation d'urgence, là, où on a vraiment ici là des violences non contrôlables. La personne conserve ses droits. Puis vous savez, dans des situations où le jugement est fortement perturbé, il faut obtenir le consentement. À ce moment-là, il faut prendre les démarches nécessaires là, pour aller de l'avant vers un traitement. C'est certain que quelqu'un qui a des problèmes de consommation, ben nous, à l'urgence, on va mettre rapidement des services de toxicomanie au service du patient. On a une médication aussi pour diminuer ce qu'on peut appeler les symptômes de retrait, là, si quelqu'un est vraiment dépendant de ces drogues-là. Et puis on va traiter l'urgence, puis ensuite de ça, on va mettre sur pied ou on va offrir aux patients des services là, de continuité. Dans le cas du jeune homme d'hier, là, Mme Brochu parlait de son jeune fils qui, soudainement, là, à partir de Noël, va pas bien. Bon, on a quand même des programmes très rapides ou l'accès est rapide qu'on appelle les programmes de premier épisode psychotique. Où là, toute une équipe va intervenir autour du jeune homme, justement pour intervenir à l'école, intervenir aussi pour sa toxicomanie. Là, on dira pas aller en désintoxication puis revenir nous voir quand c'est fini. Là, les programmes sont adaptés pour cette clientèle-là.
Qu'est-ce que vous dites à des parents qui ont vraiment peur, là? C'est-à-dire qu'ils ont un jeune adulte qui physiquement, évidemment, peut être imposant, puis eux sont peut-être des parents vieillissants, et qui voit ce jeune adulte entrer dans des phases de violence, de menace. Je vous le dis, docteur Blue, là, ils savent pas quoi faire. Est-ce qu'on appelle la police tout le temps? On le sort de la maison puis on l'empêche de revenir? Ils savent pas comment gérer ça.
Ouais, mais d'abord, ça devrait jamais être ça. J'étais très triste d'entendre Mme Brochu parler de sa situation. Moi, comme psychiatre, je travaille avec les familles, on travaille avec les patients. Bien sûr, les familles font partie de l'entourage du patient. Fait que c'est pour moi, c'est toujours une aberration de dire qu'ils sont pas inclus là, dans l'équation. C'est eux qui s'en occupent aussi. Hein. Quand les jeunes ont des difficultés, ils vont voir leurs parents, ils vont pas voir des inconnus. Fait que c'est pas simple, je vous dirais. C'est pas simple. Dès les premiers épisodes à l'urgence, c'est certain que l'hospitalisation est toujours possible, puis est toujours là, est toujours disponible. Mais de remettre des gens qui ont des crises fréquentes ou de dangerosité sans état stabilisé, là, ça, c'est un petit peu plus inquiétant. Je vous dirais ça, en tout cas, c'est pas ce que j'ai appris à l'école, là. Mais effectivement, il y a aussi des ressources que les parents peuvent avoir, comme par exemple le réseau Avant de craquer, c'est un réseau communautaire qui vient aider les parents, soit à comprendre ou s'il y avait besoin d'intervention ou d'information. Donc, c'est un réseau disponible. Les gens peuvent contacter tout le temps. Il y a les centres de crise aussi, mais je veux dire, c'est toujours triste et désolant d'entendre le témoignage que vous avez entendu hier. Ça devrait plutôt être un psychiatre qui aurait dû écouter Mme Brochu là, que vous. Là.
Oui, ça aurait été plus utile, certain. L'autre chose, docteur Blue, puis je comprends qu'il n'y a pas une réponse universelle, mais vraiment, le cas qui m'a été soumis là n'est pas unique. Deux parents qui ont deux attitudes ou deux réactions différentes face à un jeune adulte comme ça, qui fait des crises et qui est menaçant. Le père dit, moi, je veux continuer à m'en occuper. Je suis prêt à vivre ce stress-là. Et la mère dit non. Là, on a tout fait. Il est dans la rue, il revient, il repart, il nous vole pour payer sa consommation. Moi, je veux plus rien savoir. Je veux couper les ponts. Puis le père dit non. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Ouais, ben écoutez, tu sais, l'histoire de Mme Brochu, là, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que quand une famille fait des démarches légales, puis justement, c'est pas facile pour un couple aussi de vivre ça, hein, un enfant problématique, là, ou en tout cas avec des difficultés là, de santé mentale. Ben moi, je pense que c'est là que notre travail d'aider le couple de parents est nécessaire aussi. Là. C'est pas une épreuve facile pour un parent d'abord de faire face à ça. Puis ils font partie de l'équation aussi. Là. C'est pas juste un patient que j'ai un système à traiter là ici. Là. J'ai un système à accompagner. Donc, nos équipes, soit d'intervention dans le milieu ou de premier épisode psychotique, sont habituées de travailler avec la clientèle et les parents et les aider. C'est certain que quand il y a des difficultés de consentement à des soins, M. Arcand, ça, c'est notre gros problème en psychiatrie. Parce qu'en médecine, là, normalement, quand vous avez un problème, tout le monde veut qu'on le règle. Là, puis ouais. Les patients sont d'accord. Hein. Mais nous, on a aussi cet enjeu-là. Fait que c'est certain que polariser la décision, puis on a besoin aussi du consentement du jeune homme ou de la jeune fille pour les aider à moyen terme. Là. Fait que c'est certain qu'on veut pas avoir dans l'équation là, ce qu'on appelle un clivage, là, si vous voulez, où les parents donnent deux positions antagonistes. Là. Le jeune va choisir, puis ça peut compliquer le traitement aussi. Là.
Merci beaucoup, Dr. Blot. Bonne journée.
Ça me fait plaisir.
Merci, au revoir. Dr. Pierre Blot, qui est psychiatre et directeur national des services en santé mentale et en psychiatrie légale.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, ce matin, il y a une étude qui montre, c'est publié dans la presse, que le milieu de travail au Québec serait secoué plus qu'on le pense par les comportements déplacés. Donc, une personne sur deux, ce qui me paraît énorme, là, mais quand même, dit avoir observé ou subi un comportement sexualisé, inapproprié ou discriminatoire en milieu de travail. Ce sont des chercheuses qui ont extrait des données d'un sondage fait par Statistique Canada, donc pour les appliquer au Québec. On comprend que les femmes sont principalement touchées. Et le ministre Jean Boulay dit qu'il doit prendre l'affaire au sérieux puis promet des mesures. Mais 49%, une personne pratiquement sur deux, j'en parle avec Maître Claude Gravel, qui est avocat spécialisé en droit du travail. Maître Gravel, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
49%, là, juste le chiffre en tant que tel... Ça me paraît énorme. Vous en pensez quoi?
Ça me paraît également énorme. Reste à voir dans l'étude qu'est-ce que ça comprend, l'expression qu'ils ont utilisée, parce que dans le fond, il peut y avoir des comportements du genre une blague inappropriée à caractère sexuel. Alors, est-ce que ça rentre dans cet univers de comportements dit inappropriés ou à caractère sexuel? On le verra à la lecture de l'étude, mais j'ai l'impression que la définition ou le spectre avec lequel ils ont examiné les comportements à caractère sexuel inappropriés est un spectre plutôt large pour arriver avec des données aussi importantes.
Avec votre expérience, donc en droit du travail, qu'est-ce que vous voyez actuellement le plus souvent là, comme comportement inapproprié, que ce soit du harcèlement là, ou de l'inconduite sexuelle?
Ben, j'ai le goût de vous dire deux choses. D'une part, les bonnes manières ont tendance à adoucir les relations sociales. Puis ça, c'est pour moi qui le dis, c'est un philosophe. Ce que l'on constate, c'est que, dans le fond, il y a comme une perte ou une érosion des valeurs en entreprise qui... puis je vais parler ici des valeurs, de la promotion des valeurs que l'on recherche ou des valeurs ou des comportements que l'on cherche à valoriser versus les anti-valeurs, c'est-à-dire les comportements qui sont interdits ou que l'on dénonce. La société, puis je vais le dire de manière générale, on sent une forme de souffrance et d'intolérance qui fait en sorte que, comme votre invité tout à l'heure, le Dr Blot le mentionnait, on voit des phénomènes qu'on ne voyait pas il y a 15 ans, 20 ans passés. On se rappellera que l'adoption des modifications sur la loi sur les normes du travail au niveau du harcèlement psychologique remonte à 2004 et malgré... toute la promotion des comportements, de la manière dont les employeurs et les employés doivent se comporter, il semble malheureusement que l'on continue encore aujourd'hui à accepter ou à tolérer ce qui ne devrait pas être toléré. Donc, effectivement, cette montée-là des comportements inappropriés ou dit d'incivilité devient de plus en plus grande, de plus en plus préoccupante dans une population qui est un peu plus en détresse, je vous le dirais, au lendemain de la pandémie.
OK, mais prenons tout ce qui a suivi avec le mouvement, là, moi aussi, le fameux MeToo. La perception, je dis bien la perception qu'on a, c'est qu'en milieu de travail, de façon générale, les choses se sont replacées quand même, que les gars, principalement, ont peut-être compris qu'il y a des comportements qui sont disparus. Puis je dis pas qu'il n'y a pas du travail à faire, là, mais il me semble qu'il y a quand même un environnement qui a changé depuis les 5-10 dernières années?
Effectivement, il y a un environnement qui a changé, mais en même temps, puis en parallèle, je vous dirais qu'on a peut-être développé une plus grande intolérance
okay.
à ce qui était jadis toléré. Alors, le phénomène, naturellement, plus on fait de la sensibilisation, plus la société en général devient attentive ou préoccupée ou regarde avec un œil plus critique le comportement humain. Et c'est vrai aussi en entreprise, et ce, malgré les interventions que les employeurs, on le sait que la matière de comportement, c'est pas uniquement la responsabilité de l'employeur, quoi qu'il y a les épaules larges, mais c'est une responsabilité qui est partagée puis qui doit être assumée par tous. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, M. Arcan, que la promotion des valeurs et des comportements d'organisation est sans doute l'avenue en termes de prévention et le meilleur rempart ou le meilleur garde-fou à des comportements déviants ou inappropriés.
OK. L'autre question qui m'apparaît importante, là. Je remarque dans l'étude, on verra le détail, que les gens portent plainte souvent quand ils ont quitté leur emploi. Ça en dit long si c'est confirmé, ça.
Oui, en fait, c'est un phénomène que l'on constate là, sur le plan juridique, on le voit là. Il y a des démissions qui, avec la démission, vient le dépôt d'une plainte de harcèlement psychologique ou autre. Alors, ce que l'on constate aussi, c'est que les canaux qui permettent de faire un traitement efficace des plaintes ou des situations inappropriées demeurent encore à être parfaits. Là, c'est pas parfait. Et on parle, par exemple, ici, dans un milieu syndiqué, lorsque les comportements inappropriés visent deux personnes qui appartiennent au même syndicat, lorsque les comportements inappropriés proviennent du président ou de la présidente de l'entreprise. Alors, il y a un paquet de situations qui font en sorte où les gens hésitent ou sont craintifs, et c'est légitime, de où est le guichet auquel je vais pouvoir m'adresser pour loger une plainte, tout en étant rassuré que je ne serai pas visé par des mesures de représailles. Alors, il y a un contexte qui existe, puis la crainte est exprimée dans bien des cas par des salariés qui, plutôt que d'affronter un système de justice qui, faut-il en convenir ici encore, est pas très très fluide et pas très très efficace, mais préfère démissionner dans un contexte de plein emploi. Là, à l'heure actuelle, peut-être plus simple de dire, plutôt que je me batte dans un contexte difficile, je suis peut-être mieux de rompre mon lien d'emploi et me trouver un emploi ailleurs.
Merci, Maître Gravel. Bonne journée.
Merci, monsieur.
Au revoir. Maître Claude Gravel, qui est avocat spécialisé en droit du travail.
L'essentiel de Paul Arcand.
On parlait d'un environnement de travail très particulier, celui de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. À compter d'aujourd'hui, tous les sit-in sont interdits. Alors, vous savez ce que c'est que le sit-in? Bon, des infirmières, par exemple, qui arrivent à un quart de travail, il manque de personnel, temps supplémentaire obligatoire, ou carrément, il n'y a pas assez de monde, et décident de protester et de pas travailler. Donc, il y a un sit-in qui se fait. Et la direction a envoyé une note en disant que toute forme de sit-in, à partir d'aujourd'hui, sera interdite, et qu'il y a même des recours devant les tribunaux administratifs qui sont prévus, et des sanctions là qui, au-delà de la perte de salaire, mais ça peut toucher, ça peut aller jusqu'en déontologie. Denis Cloutier est le président du syndicat des professionnels en soins de l'Est de l'île de Montréal. Monsieur Cloutier, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Première chose que j'ai vu le mémo de la direction, là. Sur la forme, on peut convenir que la personne qui a écrit ça ne gagnera pas un grand prix de relations humaines professionnelles, parce que c'est un ton baveux en disant on va vous botter le derrière si vous recommencez à faire ça.
Ça, tout à fait. Là, ça a spontanément généré une colère d'un peu partout. Cette journée-là, j'étais en réunion, puis là, un moment donné, je vois mon téléphone qui se met à sonner, vibrer à tout bout de champ. Je sors de la réunion pour voir ce qui se passe, là, puis j'ai vu le constat là, en prenant acte du topo moi-même. Là.
OK. Le ton là, est pas bon, puis il paraît que le responsable ou la responsable s'est fait frotter les oreilles. Maintenant, sur le fond, je comprends l'exaspération, là, puis Maisonneuve-Rosemont est un cas aussi, là, compte tenu de je dirais, l'état des lieux, là, malgré les promesses de rafraîchissement. Mais en même temps, un employeur peut pas tolérer tout le temps un sit-in de la part des employés.
Ce qu'il faut comprendre, là, un sit-in, là. Les employés font pas un sit-in pour faire un sit-in. Moi, je représente des professionnels en soins. On dit à ces gens-là, mettons qu'ils sont supposés être 5 dans une équipe, ben, à soir, vous allez devoir travailler à seulement 3. Puis là, ils voient la charge de travail. Ils disent, mais dans ces conditions-là, moi, je peux pas rentrer travailler pour offrir des soins sécuritaires. En tant que professionnels, ils sont tenus imputables de tout ce qui arrive à des patients qui ont sur leur charge. Fait que c'est avant la prise en charge, elles font ce moyen de pression-là, généralement, pour forcer un peu l'organisation à se revirer de bord, à trouver quelqu'un, à leur venir en aide. Des fois, le sit-in peut durer 15 minutes, comme des fois, ça peut s'étirer, comme le cas qu'il y a eu au mois de janvier dernier.
Là. OK, mais depuis janvier, par exemple, il y en a eu combien de sit-in, le savez-vous?
C'est vraiment des actes qui sont spontanés, puis ceux qui se règlent en 15-20 minutes parce que le chef d'unité finit par trouver quelqu'un qui arrive et qui vient aider, ben voyez-vous, ceux-là, là, je serais même pas interpellé. Fait que je sais pas, pour pouvoir les comptabiliser, c'est pas des choses qui sont comptabilisées. Moi, j'interviens dans ceux qui s'étirent lorsque quelqu'un m'appelle à ce moment-là.
OK. Est-ce qu'il y a des discussions qui ont eu lieu au préalable avant ce mémo-là entre la direction et le syndicat? Sur le fait là, oui, qu'on s'en venait avec ces mesures-là?
Non, pas sous cette forme-là.
Non,
absolument pas. Ils nous avaient dit qu'ils voulaient revoir leur politique vaguement. Nous, on leur avait exprimé un peu ce que je viens de vous dire, comme quoi que c'était des manifestations spontanées qui venaient de membres qui avaient atteint leurs limites, là, M. Arcand. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, elles sont responsables d'offrir ces soins-là. Il faut se mettre dans la tête des soignantes qui voient des malades, là, puis ne pas être capable, en mesure, de soigner à la hauteur que tu sais que tu devrais le faire pour leur sécurité. Ben, c'est tout ça là, qui les gruge en dedans puis qui les mène à faire un sit-in en début de corps de travail.
Ce matin, le Journal de Montréal publie des données sur le taux de roulement, par exemple, des infirmières auxiliaires, préposées aux bénéficiaires là, dans différents hôpitaux du Québec. Et il y a des hôpitaux qui ont perdu, dit-on, 20% de leur personnel en une année seulement. Et je regarde les tableaux là pour les infirmières. Dans l'Outaouais-Pontiac, c'est 26%. Sainte-Justine, 20%. C'est quoi le roulement de personnel à Maisonneuve-Rosemont?
Oui, j'ai vu dans le tableau. Maisonneuve-Rosemont est à 15% dans le tableau. C'est peut-être pas aussi élevé que le 26, mais qui est beaucoup trop élevé pour moi, là. On perd des gens tous les jours. On fait des efforts incommensurables pour en attirer, mais les conditions de travail fait qu'on en perd autant par la porte d'en arrière en même temps. C'est très, très, très difficile de retenir les gens dans des conditions comme ça où on les pousse à travailler dans l'inconfort de pas être capable d'offrir des soins de sécurité. Puis là, je vous parle même pas, là, des 20-quelques mille heures qui ont été travaillées en temps supplémentaire obligatoire là, dans le CIUSSS au courant d'une seule année. Là, ça aussi, ça décourage parce qu'ils sont souvent, ces heures-là, travaillées à Maisonneuve-Rosemont et à Santa Cabrini.
OK. Et le TSO, ça baisse-tu un peu ou on est toujours dans des niveaux élevés?
C'est ça que je vous dis. Là. 18 000 heures de TSO dans un an à l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont. J'en ai eu 22 000 quelques dans tout le CIUSSS, si vous voulez, à l'urgence de Maisonneuve-Rosemont, là, grâce aux efforts qui ont été mis en place là, par la direction puis par le ministère pour diminuer le nombre d'ambulances, parce qu'on est encore, grâce à ça, on tient une charge qui correspond plus au nombre de civières qu'on a. En ce moment, on a 17% des civières, puis on reçoit 17% des patients. Grâce à ça, on a pu diminuer le nombre à l'urgence même.
OK, merci M. Cloutier. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Denis Cloutier, le président du syndicat des professionnels en soins de l'Est de l'île de Montréal.
C'est 23.